Bonjour. Bien. Donc, il y a eu un changement de la programmation. On commence par Jules Verne. Hein. Ensuite, il y aura l'imaginaire américain avec Xavier Mauméjean. Et puis, Roland Lehoux sera en dernière heure pour parler de ses planètes à gogo. Donc, je suppose que si vous vous êtes inscrit, c'est parce que vous savez un petit peu qui je suis. Mais est-ce que vous voulez que je vous... vous dites qui je suis un petit peu. Oui, bon, alors. Donc, je m'appelle Danielle Martinigol, je suis écrivain pour la jeunesse en science-fiction. Je publie des romans de science-fiction jeunesse depuis 1989. Et puis, j'étais prof de français. Je suis en retraite maintenant. Et donc, les éditions Flammarion m'ont demandé, il y a 3 ans, de faire une anthologie sur Jules Verne. Voilà, si ça m'intéressait de faire une anthologie des œuvres de Jules Verne. J'avoue que ma première réaction a été extrêmement négative. Je ne réponds jamais par la négative à un éditeur. Il faut les ménager. Donc, je me suis donné un petit temps de réflexion. En disant oui, bon, c'est gentil de penser à moi, je vais y réfléchir, etc. Et c'est vrai que la première réaction, ça a été de me dire qui lit encore. Alors, il y avait une consigne aussi, oui, il faut que je précise ça, c'est que ça devait être une anthologie destinée à des élèves de collège, principalement du niveau 4e. Ils voulaient cibler les élèves de 4e de collège. Donc, comme moi, j'ai enseigné en collège très longtemps, et en plus, j'ai été pendant très longtemps, presque toute ma carrière, dans des collèges difficiles, et j'ai terminé ma carrière dans un collège de ZEP, je connais les difficultés de lecture d'élèves qui sont peu lecteurs, pas très intéressés par les romans, etc. Et ma première réaction, ça a été de me dire, non, plus personne ne lit Jules Verne de nos jours, comment est-ce que je vais bien pouvoir me sortir de cette histoire ? Et puis en fait, je dis toujours que Jules Verne est quelqu'un qui m'agace, parce que c'est vrai que cet homme-là, il a fait tellement de choses, il a écrit tellement de choses, et il est tellement omniprésent que moi, en tant qu'auteur de science-fiction, tout le long de ma carrière d'écrivain de science-fiction, quand je faisais des interventions en milieu scolaire et que je rencontrais des documentalistes, des professeurs et même les enfants, inévitablement, Jules Verne revenait dans la figure régulièrement et on me disait « Oui, mais vous qui écrivez de la science-fiction, qu'est-ce que vous pensez de Jules Verne ?» Et invariablement, je répondais « Mais Jules Verne n'était pas un écrivain de science-fiction, c'était un écrivain d'anticipation scientifique, c'est tout à fait autre chose. » Et en fait... avec cette proposition de Flammarion, je me suis posé la question de savoir, c'est facile de dire plus personne ne lit Jules Verne, mais toi-même, qu'est-ce que tu as lu ? Et je me suis rendu compte que j'en avais finalement très peu lu. J'avais lu Le Voyage au centre de la Terre, j'avais lu Les Indes Noires, pour une raison très simple, c'est que quand j'étais adolescente, il y avait eu une adaptation télévisée des Indes Noires. Et ça avait absolument enchanté mon adolescence que de voir cette adaptation télévisée des Indes Noires, que l'on peut encore trouver par le site de l'INA, je le signale, pour ceux qui sont intéressés, puisque je l'ai donc fait. Je suis allée le chercher sur le site de l'INA et je l'ai revu. Et donc, j'avais lu les Indes Noires, j'avais lu avec mes élèves, évidemment, des extraits, j'avais fait lire à mes élèves des adaptations pour les enfants, c'est-à-dire raccourci, où on a enlevé en fait tout ce qui est considéré comme difficile d'abord par des enfants. Et puis je me suis dit, bon, tu n'aimes pas toi qu'on juge ton œuvre sans l'avoir lue, tu ne vas quand même pas faire un procès d'intention à Jules Verne d'emblée, et tu vas lire un petit peu de Jules Verne avant de donner la réponse. Et le premier que j'ai pris et que j'ai trouvé dans ma bibliothèque comme ça, spontanément. Et puis, je sais pas, je voulais peut-être me faire du mal, parce que c'était presque le plus gros. C'était L'île mystérieuse, avec ses 830 pages. Et je me suis lancée à lire, mais franchement, j'y suis allée à reculons. Et il m'a piégée, quoi. Je me suis retrouvée piégée dans L'île mystérieuse. J'ai dévoré le bouquin, j'ai adoré le livre. Je n'ai eu qu'une envie, puisque, enfin bon, je ne sais pas si ça serait dévoiler les choses, mais à la fin de l'île mystérieuse, on retrouve le capitaine Nemo. Donc, du coup, je me suis dit, je vais lire 20 milieux sous les mers. Alors, celui-là m'a franchement barbé. Ça, je le dis sans hésiter. J'ai trouvé. Alors, évidemment, Nemo, Aronnax, tout ça, c'est très bien. Mais. Tous les passages sur les classifications animales, enfin bon, toutes ces longues listes de. Ça, je trouvais ça assez indigeste. Et puis, bon, j'ai continué. Je me suis dit, voyons, si je faisais une anthologie, il faudrait que je construise ça d'une telle façon que les enfants aient un point de repère dans cette masse de romans, parce que. Il y en a tellement que. Alors donc, on dit qu'il y en a. On ne sait même plus exactement. Il y en a qui disent 83, d'autres qui disent 85. Sûr et certain de son vivant, il n'en est pas paru 60, une soixantaine, hein, on sait pas exactement. Et puis, il était parti pour. S'il avait voulu, il aurait pu en écrire bien plus, puisque ce matin. Un des messieurs spécialistes de Jules Verne de Nantes qui était avec moi sur la table ronde, monsieur Pommier, a dit qu'on avait retrouvé encore au moins 20 000 fiches, enfin il avait 20 000 fiches, et on a encore des fiches de Jules Verne où il avait noté tellement de choses qu'on pourrait presque supputer sur quoi il avait l'intention d'écrire d'autres romans. Quoi. C'était vraiment un bourreau de travail, il était un compilateur de documentation, il allait presque tous les jours en bibliothèque, il prenait des foules de notes. Le personnage a fini par me fasciner à travers ses livres parce que j'y ai retrouvé un écho avec mes propres méthodes de travail. C'est-à-dire que il disait, alors donc je vais vous le lire puisque ça c'est lui qui parle en fait. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que je ne tire aucune fierté particulière à avoir écrit sur l'automobile, le sous-marin, l'aéronef, avant qu'ils ne deviennent en fait des réalités scientifiques. Au moment où j'en parlais comme des réalités, elles étaient déjà à moitié découvertes. Je faisais simplement de la fiction à partir de ce qui est devenu fait ultérieurement, et mon objet n'était pas de prophétiser, mais d'apporter aux jeunes des connaissances géographiques en les enrobant d'une manière aussi intéressante que possible. Donc ça, c'est très important de se souvenir que lorsqu'Hetzel lui a demandé d'écrire ses romans, c'était dans l'optique d'éduquer les jeunes et de leur apprendre des choses, chose qu'on a du mal à remettre en perspective de nos jours, nous, avec cet outil fabuleux et très pervers qu'est l'Internet, où on a l'impression que tout le monde peut aller à la source du savoir sans difficulté. Et donc, à cette époque-là, effectivement, Hetzel voulait que les romans de Jules Verne, dans les publications périodiques destinées à la jeunesse, leur permettent d'apprendre, de découvrir, et en fait de s'instruire, hein. C'était sûr et certain qu'il y avait cette vocation-là. C'est pour ça qu'il est resté pendant très longtemps avec l'étiquette d'écrivain pour jeunes. Il était parfaitement conscient qu'il écrivait pour des jeunes, et il a été particulièrement méprisé comme par d'autres, hein. Je sais plus, c'est Émile Zola qui avait dit « Je recherche... » pour ne pas dire de sottises, voilà, c'est... D'abord, l'Académie française l'a boudé, ça c'est sûr et certain. L'étiquette d'auteur feuilletoniste appointée par l'éditeur Hetzel pour son magasin d'éducation et de récréation a collé négativement à Jules Verne pendant très longtemps. Émile Zola disait que les 100 000 exemplaires vendus de certains de ses romans n'avait, et je cite Zola, aucune importance dans le mouvement littéraire actuel, et que, et je cite à nouveau Zola, les alphabets et les paroissiens vendent aussi à des chiffres considérables. Hein, c'est-à-dire, c'est vrai que ça dénotait un mépris profond pour l'œuvre vernienne. Il en a souffert, ça c'est sûr et certain qu'il en a souffert. Mais il a une belle vengeance maintenant, quand même, quand on pense qu'il est traduit en 93 langues et qu'il reste pour beaucoup de lecteurs étrangers, l'auteur français, peut-être pour beaucoup le seul qu'ils aient lu, hein, justement, grâce à ses traductions. Hein. Alors voilà comment il travaillait. Il disait « Je commence par faire un brouillon qui détermine ce que doit être l'histoire. » C'est-à-dire qu'en fait, il ne partait... Enfin, moi, je fais la même chose. Enfin, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Je dis toujours, ce sont mes personnages qui partent à l'aventure, ce n'est pas moi. Moi, je ne pars pas à l'aventure. Au moment où je commence un roman, je lance mes personnages dans les aventures, et lui, il faisait la même chose, en fait. Hein. Quand j'ai lu ça, je me suis sentie très proche de lui, en fait. J'établis d'abord les grandes lignes de ce qui va constituer mon nouveau roman. Je ne commence jamais un livre sans savoir ce que seront le début, le milieu et la fin. Moi, j'emploie les mêmes termes quand je parle avec mes jeunes lecteurs. Je leur dis, j'ai une cible, je vois où je veux aller. Bon, ma flèche, quelquefois, au cours de l'histoire et de l'écriture, va prendre quelques virages, mais elle atteindra quand même la cible qui était la mienne dès le départ. Il y a un objectif dans le roman, et lui, il travaillait comme ça. Il disait qu'une fois mon travail préliminaire, terminé, je dresse un plan des chapitres, puis je commence la véritable écriture de ma première version au crayon, en laissant une marge d'une demi-page pour les corrections. Puis je lis le tout et le repasse à l'encre. Je considère que mon vrai travail commence avec le jeu d'épreuves, car non seulement je corrige chaque phrase, mais je réécris des chapitres entiers. Comme on dit, c'est sur épreuve, une fois que le texte est déjà distancié, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans son écriture manuscrite personnelle avec ses corrections sur la partie qu'il se réservait dans sa demi-page pour faire ses corrections, que là, le livre ayant pris une distance, il se sent vraiment son propre correcteur. Donc là, il corrige pour fignoler vraiment les détails et même parfois reprendre des passages complets puisqu'il dit qu'il réécrit des chapitres entiers. Et il disait, j'estime que j'ai la chance d'être né dans une période de découverte remarquable et peut-être plus encore d'inventions merveilleuses. Au cours de mes lectures, j'ai relevé plein de choses ici et là qui ont leur utilité. Je puis vous assurer que je suis un grand lecteur et que j'ai toujours un crayon à la main, j'ai toujours avec moi un carnet. Donc il était sans arrêt l'esprit en éveil. Il était très ami avec beaucoup de scientifiques. C'était un esprit curieux, en fait. Hein. Il avait dans sa vie des aspects assez taciturnes, de comportement un peu taciturne. Il n'était pas très facile à vivre. Hein. Il a eu pas mal de difficultés avec son propre fils. Mais il était tellement exigeant avec lui-même, je pense, que du coup, il devenait exigeant avec autrui. Et là, il le dit, j'ai jusqu'à maintenant amassé plusieurs milliers de notes sur tous les sujets, et aujourd'hui, j'ai chez moi au moins 20 000 notes qui pourraient servir dans mon travail et qui n'ont pas été encore utilisées. Certaines de ces notes ont été prises d'après des conversations avec des gens. J'aime écouter les gens parler à condition qu'ils parlent de sujets qu'ils connaissent. Et donc, il était à l'affût de tas de choses grâce à cela, à cet esprit curieux. Et bon, et bien, ma foi, il n'a pas fait fortune, hein, loin de là. Hein. Il disait, je ne suis pas et n'ai jamais été homme à gagner de l'argent. Je suis un homme de lettres et artiste. Vivant à la poursuite d'un idéal, me jetant sauvagement sur une idée, brûlant d'enthousiasme pour mon travail. Et quand il est terminé, je le mets de côté, oubliant tellement tout, que souvent je m'assieds à mon bureau, prends un roman de Jules Verne et le lis avec plaisir. Alors ça, mon mari qui est dans le fond de la salle pourrait vous le dire, moi je suis pareil. C'est-à-dire que de temps en temps, surtout quand mon livre m'arrive imprimé, j'ai exactement la même réaction, c'est-à-dire le livre, entre le moment où le manuscrit part chez l'éditeur et le moment où on le reçoit enfin bien tout beau, imprimé, sentant l'encre, etc. C'est pour ça que les e-books on n'aura jamais ça, hein, mais bon, mais là, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai écrit, et là, je le relis avec le regard complètement le plus détaché possible pour essayer de voir s'il ne reste pas des coquilles, et puis là, de toute façon, à tout coup, je retrouve des fautes, des inversions qui ont été mal faites, là, il aurait peut-être mieux valu mettre l'adjectif qualificatif avant au lieu de le mettre après, enfin bon, des petits détails pointilleux comme ça, mais bon, une fois que je finis, très souvent, je pose le livre, et là, mes enfants, mon mari, ma famille, s'il y a quelqu'un qui est témoin, quelqu'un me dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je dis « Oh, c'est pas mal, c'est un bon bouquin. » Et je pense que cette satisfaction-là, qui me semblait un petit peu outrecuidante quand je le vivais, moi, avec mes propres livres, de voir que Jules Verne faisait la même chose, hein, en disant « Je prends un roman de Jules Verne et je le lis avec plaisir. » On sent une espèce de complicité là qui fait que je m'attachais de plus en plus à lui. Alors bon, il disait « J'aurais attaché 1 million de fois plus de prix à un peu de justice de la part de mes compatriotes qu'aux milliers de dollars que les livres auraient dû me rapporter en fait. C'est ce que je regrette et que je regretterai toujours. » Donc il a toujours regretté en fait de ne pas être considéré comme un grand écrivain en fait. Il était parfaitement conscient que des milliers et des milliers de jeunes lisaient ses livres, que sans doute aussi beaucoup d'adultes les lisaient, mais il n'avait pas cette reconnaissance de l'Académie française, de ses contemporains écrivains. Et donc c'est ce que je mettais dans mon introduction, tout ça, en disant que, bon, il ne faut pas que vous soyez déçu, Monsieur Jules Verne, puisque l'introduction de mon anthologie s'adresse directement à lui. Vous êtes lu dans le monde entier, en fait, vous en conviendrez, votre œuvre elle-même est un monde, un univers complexe et fascinant à explorer. Et voilà, c'est ce que je me suis lancée à faire lorsque j'ai répondu positivement aux éditions Flammarion, en disant « Oui, je vais vous faire une anthologie Jules Verne ». Donc, j'en ai lu 25, des voyages extraordinaires. Je n'en ai pas lu d'autres depuis. Je disais ce matin à la conférence que je suis bourguignonne et que les dégustations, ça me connaît. Et que quand on déguste, on n'avale pas son verre d'un seul coup. Moi, je suis née à Meursault, mon père était de Nuit-Saint-Georges, j'ai été professeur à Beaune, à Gevrey-Chambertin, j'ai fini ma carrière à Mâcon et j'habite à Julienas, donc j'ai un curriculum vitae qui ressemble à une carte des vins. Et d'ailleurs, Jules Verne en a parlé. C'est dans Autour de la Lune, c'est un extrait d'Autour de la Lune. Le déjeuner débuta par 3 tasses d'un bouillon excellent, dû à la liquéfaction dans l'eau chaude, de ces précieuses tablettes liébilles préparées avec les meilleurs morceaux des ruminants des pampas. Au bouillon de bœuf succédèrent quelques tranches de beefsteak comprimées à la presse hydraulique, aussi tendres, aussi succulents que s'ils fussent sortis des cuisines du café anglais. Donc on est dans l'obus qui est en orbite autour de la Lune. Ils sont partis avec leur obus depuis la Floride. Ça, c'est de la Terre à la Lune, et dans Autour de la Lune, ils sont en train de tourner, satelliser eux aussi autour de la Lune. Donc Michel Ardan, le héros français, avec ce nom très porteur de Ardan, justement, puisque c'est un personnage très attachant et plein d'allant. Donc, je reprends la lecture. Michel, homme d'imagination, soutint même qu'ils étaient saignants. On est toujours dans les beefsteaks compressés à la presse hydraulique. Des légumes conservés et plus frais que nature, dit aussi l'aimable Michel, succédèrent au plat de viande et furent suivis de quelques tasses de thé avec tartines beurrées à l'américaine. Ce breuvage, déclaré exquis, était dû à l'infusion de feuilles de premier choix dont l'empereur de Russie avait mis quelques caisses à la disposition des voyageurs. Enfin, pour couronner ce repas, Ardan dénicha une fine bouteille de nuit qui se trouvait par hasard dans le compartiment des provisions. Alors moi, je trouve ce repas autour de la lune absolument fabuleux, surtout qu'on y sent quand même les prémices de ce que vivent les astronautes quand ils vont se mettre en orbite, avec le fait que c'est compressé, c'est comprimé, c'est desséché, il faut réhydrater, etc. Mais la petite merveille qui m'a enthousiasmée par-dessus, c'est qu'il y a quand même une bouteille de Nuit Saint-Georges qui est là dans le compartiment des provisions. Alors, tout ça pour dire que, bon, en bonne bourguignonne, je n'ai pas tout lu. Je lirai peut-être certains autres des romans qui sont des incontournables que je n'ai pas encore lus. Mais ça m'a plu, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, j'ai choisi de construire mon anthologie sur un voyage aussi qui permettrait aux jeunes de découvrir différents aspects de l'œuvre vernienne avec un parcours relativement balisé pour que les collégiens puissent s'y retrouver. Donc j'ai choisi de faire l'anthologie, puisque le tour de la Terre est quand même un thème tellement important chez Jules Verne, j'ai décidé de faire ce type de voyage en partant de Paris et en revenant à Paris. Parce qu'il y a énormément de voyages de Jules Verne qui sont en fait des circuits bouclés. Hein. Donc mon anthologie s'est construite suivant la structure suivante, c'est-à-dire le départ de Paris avec Robur le Conquérant qui survole Paris. Une première étape donc qui sera effectivement autour du monde, avec le tour du monde en 80 jours et les enfants du capitaine Grant. Ensuite, il m'a semblé important d'aller vers les pôles, puisqu'ils ont un très grand rôle aussi dans les romans de Verne. Donc la deuxième étape, c'est au pôle Nord, avec le pays des fourrures et les aventures du capitaine Atterras. La troisième étape, eh bien, on redescend carrément à l'opposé, au pôle Sud et à travers les océans, avec 20 000 lieues sous les mers et l'île mystérieuse. La quatrième étape, je vais aller un petit peu explorer les continents en Afrique avec 5 semaines en ballon. La cinquième étape en Asie avec Michel Strogoff. La sixième étape en Amérique avec les 500 millions de la Bégum. Et la septième étape, parce que quand même l'auteur de science-fiction est là et ça m'intéressait aussi de voir ce qui se passait loin de la Terre. Donc de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Alors, dans un premier temps, j'y avais ajouté des extraits d'Hector Servadac, dont je vous parlerai aussi un petit peu. Mais voilà, il y a des contingences matérielles chez les éditeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que les contingences littéraires ou de passion. Et on m'a dit, non, c'est trop long, il faut sacrifier, il faut enlever quelque chose. Et j'ai sacrifié Hector Servadac, parce que ce n'est pas un des romans de loin les plus connus. Et j'ai donc décidé de terminer avec un tout petit extrait d'Hector Servadac. Donc de la Terre à la Lune, autour de la Lune. Et une fois qu'on est parti, donc là, autour de notre satellite, on revient quand même chez nous. Et la huitième étape, c'est à l'intérieur de la Terre, avec les Indes noires et le voyage au centre de la Terre. Et on revient à Paris, avec Paris au XXe siècle. Et donc j'ai choisi des extraits pour essayer d'inciter mes jeunes lecteurs à avoir envie d'aller découvrir le livre en entier. C'est pas évident parce que ce sont quand même des gros bouquins où il y a plein de choses intéressantes et je voulais montrer aussi divers aspects de l'œuvre vernienne qui ne sont alors justement un peu l'ennui de toutes ces choses répétitives, un petit peu aussi la remise en perspective du colonialisme, hein, parce qu'on était en plein dedans, et donc il n'y a pas de raison non plus que les jeunes de nos jours n'aient pas une connaissance de ce qui se pensait, de ce qui s'écrivait, de ce qui se disait à l'époque de Verne sur le colonialisme. Et donc j'ai choisi des extraits qui me semblaient pédagogiquement utilisables par les enseignants, mais aussi le gamin qui voit qu'il y a un voyage extraordinaire et qui a envie de s'offrir le livre, ma foi, qu'il puisse y trouver son compte sans avoir besoin qu'un adulte derrière le pilote pour lui donner les explications. Donc voilà, un voyage formidable. Quel voyage, dit Axel à la fin du voyage au centre de la Terre. Et j'ai conclu l'introduction de mon anthologie en disant, oui, en effet, quel voyage. On ne peut que remercier Jules Verne de nous inviter à un périple pareil. On ne pouvait attendre de lui que ce genre de choses, puisque j'ai reproduit dans l'anthologie un facsimilé de sa signature. Et ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu le facsimilé de sa signature. Il signait d'une façon très lisible son prénom. Et pour Verne, il fait un V qui ressemble au dessin qu'on a l'habitude de montrer des oiseaux dans le ciel, vous savez. Ce V qui évoque le vol d'un oiseau. Donc le V de son nom qui est déjà un envol. Et puis surtout, je me suis amusée à souligner dans l'anthologie que ces initiales JV, en langage SMS, ça veut dire JV, hein, n'est-ce pas ? On y va, hein ? Et donc c'est une invitation au voyage, rien que ça. Mais il est né sous des signes assez intéressants, puisque il est né le 8 février 1828. Donc il y a 3-8 dans sa date de naissance. Le 8 est un chiffre qui n'a pas de fin, hein, c'est le chiffre. Et puis en plus, si on le couche, c'est l'infini, hein. Donc je trouve que d'avoir déjà dans sa date de naissance 3 fois le signe de l'infini, ça m'a bien amusé. Et donc il est mort le 24 mars 1905. Donc il est né ici à Nantes. Alors c'est la première chose que j'ai dite quand on m'a invité à venir parler de Jules Verne à Nantes. J'ai dit, c'est à peu près comme si vous demandiez à une nana de Contrexéville de venir parler de vin en Bourgogne, hein. Il y a assez de spécialistes à Nantes pour parler de Jules Verne sans venir me chercher dans ma Bourgogne. Mais on m'a dit, si, viens faire ça, tu le feras très bien. Alors ma foi, ce sera à vous de juger. Et donc il est mort en 1905. Alors il... Par exemple, cette date qui est début 20e siècle, etc., il faut savoir que les pôles, par exemple, le pôle Nord comme le pôle Sud, ont été découverts, enfin le pôle Sud a été découvert, le pôle Nord n'a été que survolé par Amundsen, mais beaucoup plus tard, 1911. Hein, on n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblaient exactement les pôles du vivant de Jules Verne. Pour nous, ça nous semble tellement évident maintenant, on a du mal à imaginer qu'on ne pouvait que supputer sur exactement l'aspect des pôles. Alors donc, j'ai travaillé aussi sur Edgar Poe, et Edgar Poe a écrit un roman qui s'appelle Les aventures de Gordon Pym, qui se termine justement au pôle Sud, avec une espèce de délire absolument fantastique de situations, de geysers, de tas de choses. Enfin bon, le pôle Sud vu par Edgar Poe était assez fascinant. Il a tellement fasciné d'ailleurs que Jules Verne a écrit Le Sphinx des Glaces, lui, qui est une suite à Gordon Pym. Hein. Et dans Le Sphinx des Glaces, il a amener son narrateur, ses personnages, à retrouver justement le dernier survivant de l'expédition de Gordon Pym au pôle Sud. Et donc, c'était un hommage pour lui à Edgar Poe que d'écrire Le Sphinx des Glaces. C'est étonnant de voir comme il était fasciné par toutes ces choses qui étaient du domaine de la science, il était à la fois géographe, géologue, il était passionné par toutes ces choses-là, et les pôles, c'était un mythe, quoi. On imaginait ça d'une façon, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui étaient extrêmement intéressés par tout ça. Alors, donc, en fait, ce qu'on peut dire de Jules Verne, c'est qu'il a maintenu des générations de jeunes lecteurs éveillés bien plus tard qu'il ne l'aurait dû. Hein. C'est-à-dire que les mamans venaient en disant éteins la lumière, et ils étaient plongés dans les romans, et puis c'était bien au-delà de l'heure de dormir qu'enfin la fatigue faisait que les jeunes posaient le livre et s'endormaient. En fait, pourquoi est-ce que les mamans veulent que leurs enfants dorment? C'est parce qu'on le sait, dormir, c'est grandir. Hein. Mais veiller en lisant Jules Verne, c'est aussi grandir d'une autre façon. Hein. Lire Jules Verne, c'est grandir parce que on dit qu'il y a 1000 héros dans son œuvre. Alors, il faudrait tout compter, ça, je ne l'ai pas fait. Mais c'est une œuvre vraiment impressionnante. Alors, est-ce que... ça peut paraître un peu fastidieux, mais est-ce que vous voulez que je vous lise les titres et que je vous dise en une phrase les résumés de chacun des romans? Ça vous intéresse qu'on fasse ça? Bien, alors donc, par ordre chronologique, hein, alors vous pouvez mettre des petites croix pour ceux que vous avez lus ou ceux que vous avez envie de lire, c'est exactement comme ça que j'ai procédé, moi. En lisant cette liste qui est donc une de la source du musée de Jules Verne ici à Nantes, j'ai mis les petites croix devant ceux que j'avais déjà lus, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ça, j'ai envie de lire ça aussi. Et après, je me suis rendu compte que tous ceux que j'avais cochés, c'était tous ceux qui étaient les plus science-fictifs, hein, qui m'entraînaient le plus vers la science-fiction et l'ailleurs, en fait. Hein. Donc, ça commence en 1863 avec 5 semaines en ballon. Il faut reconnaître que pour un premier roman, c'est quand même un sacré coup de maître. Hein. C'est son premier livre. Hein. Donc, une traversée de l'Afrique d'est en ouest à bord d'un ballon. Hein. Les ballons, il connaissait. Il était ami avec Nadar, qui était sous le nom de photographe Nadar, mais qui avait vraiment une passion pour les ballons. Il avait. Alors, attendez, pas de dire de bêtises, mais. Il a Nadar, son ballon. Ça m'a passionné aussi de lire ça, de faire ces découvertes sur les relations qu'il pouvait avoir avec quelqu'un comme Nadar. Je ne sais pas vous dire de sottises. Donc ça, on était en pleine époque avec l'opposition entre les plus lourds que l'air et les ballonistes. Hein. On était vraiment en plein dedans, là. Et cette opposition entre les partisans du plus lourd que l'air et les ballonistes a été suivie de très très près par Jules Verne. Hein. Il était informé sur la manière de construire un ballon parce que justement, le célèbre photographe Nadar était propriétaire d'un ballon haut de 40 mètres et contenant 6000 mètres cubes de gaz qui s'appelait le géant. Voilà. Et malheureusement, il n'est pas allé bien loin, le pauvre géant, puisqu'il a, il a parcouru uniquement 100 km pour se posé en catastrophe à Meaux. Voilà, donc il n'est pas allé bien loin, je ne sais pas d'où exactement il était parti, mais il a effectué son premier vol en 1863. Et comme par hasard, 1863, c'est l'année de 5 semaines en ballon. Voilà, vous voyez, donc il était. Ce qui nous prouve bien quand même qu'il a toujours écrit ses romans en ayant, comme je le disais, des renseignements scientifiques et techniques donnés par des véritables connaisseur. Donc après 1864, le voyage au centre de la Terre, exploration bien sûr des entrailles de la Terre, donc tout le monde connaît ce livre, tout le monde a vu, les jeunes ont vu des films, etc. Et c'est en même temps certainement le seul roman vernien qui soit un voyage dans le temps, parce qu'on a cette espèce de plongée dans le. La préhistoire, etc., avec les grosses bébêtes hein, qu'il a imaginées, là, des animaux préhistoriques. Et le troisième, 1865, donc un par an, hein, de la Terre à la Lune. Alors, pour aller jusqu'à autour de la Lune, ça va jusqu'en 1870. Hein. Il les a fait, enfin, il a fait le deuxième un peu après. Donc, voyage vers la lune d'artilleur américain. Hein, et c'est là qu'on a notre fantaisiste et audacieux français, Michel Ardan. Il a utilisé plusieurs fois des personnages français dans ses romans pour montrer finalement la curiosité, peut-être l'esprit d'entreprise des Français dans ses romans. Après, il a écrit en 1866, enfin, c'est les dates de publication, hein, « Voyage et aventure du capitaine Hatteras », donc l'exploration du pôle Nord, « Les enfants du capitaine Grant » en 1867, « Voyage autour du monde donc de deux adolescents à la recherche de leur père », j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, moi, « 20 000 lieues sous les mers » en 1870, donc là, on ne présente plus le roman, hein, « Tour du monde sous-marin », mais c'est surprenant quand même de voir qu'il arrive même à passer sous l'isthme de Suez. Hein. Donc il y a vraiment des choses qui sont très très audacieuses dans le roman, avec ce beau Nautilus, avec le capitaine Nemo aux commandes. Une ville flottante en 1871, alors celui-là je ne l'ai pas lu, une traversée transatlantique à bord du plus grand paquebot du monde, et celui-là c'est un de ceux que j'ai envie de lire un jour, parce qu'il se trouve que personnellement j'ai eu la chance de faire une croisière sur le France. Alors celui-là je vais le lire un jour, parce que je garde de ma jeunesse un souvenir absolument extraordinaire d'avoir eu la chance d'aller sur le paquebot France, où j'ai eu un mal de mer. Quand on me dit que les grands paquebots, c'est... Ah non, ça bouge aussi. Ça, je peux vous assurer que ça bouge aussi. Il y en a certains qui sont très peu connus. Aventure de trois Russes et de trois Anglais en 1872. Le relevé, ça raconte le relevé d'un arc de méridien. Ça, je ne le connais pas. Le pays des fourrures, je l'ai beaucoup aimé, 1873, parce que c'est une mission dans le Grand Nord américain. J'ai beaucoup de liens avec le Québec. Donc celui-là, je m'en suis servi dans l'anthologie. Donc le tour du monde en 80 jours, 1873. Alors ici, le résumé, c'est un pari transcontinental. Je trouve, c'est vraiment... Oui, ça, c'est pas que ça quand même, hein, le tour du monde en 80 jours. Mais c'est vrai que c'est un roman qui a un charme fou pour montrer aux jeunes aussi comment Verne envisageait de faire découvrir le monde. C'est vraiment intéressant. L'île mystérieuse, 1874, donc naufrage et survie dans une île du Pacifique. Donc ça, c'est vrai qu'il avait énormément d'intérêt pour tout ce qui était survie, les îles, l'insularité est très importante dans son œuvre. Donc le chancelor en 1875, c'est la dérive d'un radeau et de ses naufragés sur l'Atlantique. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Michel Strogoff, 1876, le périple d'un courrier du tsar depuis Moscou jusqu'à Irkoutsk. Et celui-là, je l'avais survolé en extrait quand j'étais jeune, mais en le relisant dans son intégralité, je l'ai beaucoup apprécié. Et j'ai fait un rapprochement dans l'anthologie avec deux choses essentielles de nos jours, c'est le journalisme et la rapidité des communications. Parce que Michel Strogoff permet de faire éventuellement des études intéressante avec les élèves sur le journalisme, puisqu'il y a les journalistes qui se font une bagarre sans arrêt pour essayer d'être les premiers à transmettre l'information par le télégraphe, etc. Et on en est presque encore là, quoi, de nos jours, à quelle chaîne info va sortir en priorité, un scoop. Quand on voit le moindre événement fait divers avec cette forêt de micros pour absolument interviewer quelqu'un, ça paraît étonnant, mais je vous assure que Michel Strogoff permet ce genre de choses avec des jeunes. Hector Servadac, alors c'est 1877. Pourquoi Hector Servadac m'a-t-il beaucoup plu? C'est parce que c'est un voyage interplanétaire. On a le capitaine Servadac qui est basé en Algérie, puisque c'était à l'époque évidemment un endroit où beaucoup de militaires français séjournaient. Et puis il y a une comète qui arrive et qui arrache un morceau de l'Algérie et qui emporte dans son élan un morceau de l'Algérie. Et voilà, quelques pauvres survivants sur ce petit morceau d'Algérie emportés par la comète qui vont se retrouver à faire tout le tour du système solaire. Et c'est assez surprenant, hein, vraiment, parce qu'alors évidemment, tant qu'ils sont pas trop loin du soleil, ça va, ils arrivent. Alors, il y a des astuces pour montrer leur survie qui sont extraordinairement bien trouvées, et puis on y croit, et puis il y a même, alors justement, mettant en perspective aussi les choses qu'on pouvait raconter, ou dont on était persuadé à l'époque, il y a un vieux juif qui est embarqué dans cette aventure et qui va commencer à thésauriser, à être celui qui bien sûr va être le vilain de l'affaire et tout. Ça paraît surprenant, hein, mais c'est l'époque vernienne, hein, c'est l'époque. Hein, et donc, quand on commence à creuser un petit peu dans l'œuvre, on ressort aussi des choses de ce genre-là. Hein. Lorsqu'il parle dans Saint-Germain en Vallon là, de survoler les Africains qui sont considérés presque comme des singes, quoi, comme des sauvages, hein, et ça ne choquait pas à l'époque de mettre ça dans des romans pour jeunes, hein, et donc ça, il faut savoir tout ça aussi. Et alors notre monsieur Servadac et sa petite équipe là, eh bien, ils se gèlent de plus en plus au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du soleil, qui semble assez logique. Ils sont quasiment congelés, enfin bon, par chance, la comète elle revient, hein, et elle nous ramène tout le monde en reposant tout au bon endroit en Algérie, hein. Et donc ça vaut le coup, enfin moi c'est un livre qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a amusé, et puis qui est pas mal fait du tout. Et j'ai terminé l'anthologie avec ça. C'est le dernier chapitre d'Hector Servadac. À la porte de Mascara, le capitaine Servadac rencontra précisément ses deux camarades, le commandant du 2e tirailleur et le capitaine du 8e d'artillerie. Il tomba littéralement dans leurs bras. « Vous, Servadac ? » s'écria le commandant. « Moi-même ?» « Et d'où venez-vous, mon pauvre ami, après cette inexplicable absence ?»« Je vous le dirai bien, mon commandant, mais si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Cependant, bah, mes amis, serrez la main à un camarade qui ne vous a point oublié, et mettons que je n'ai fait qu'un rêve. » Et la dernière phrase est décidément « mieux valait se taire ». Voilà, hein. Bon, et c'était effectivement une telle aventure, mais c'est un roman très sympa. Alors après 1877, la même année, donc, les Indes Noires, les aventures fantastiques dans une mine de charbon écossaise, et c'est très très bien, enfin, ça se lit très bien aussi encore maintenant, avec une histoire d'amour en plus. Alors, les jeunes de nos jours, ils aiment quand même bien lire des romans où il y a en plus une histoire d'amour, hein. Les jeunes filles. Moi, dans mes romans, je mets toujours filles et garçons à action égale, si j'ose dire, hein, de façon à ce que importance équivalente, de façon à ce que les garçons et les filles qui lisent mes romans puissent s'y retrouver. Et puis, bon, la petite histoire d'amour qui fait que les jeunes filles, éventuellement, les garçons aussi, ils aiment bien lire ça aussi, ils ne le disent pas, c'est tout. Moi, j'ai écrit deux romans d'amour qui ont été publiés dans une collection qui s'intitulait à l'époque « Toi plus moi égale cœur », avec un petit cœur dessiné sur la couverture du livre. La documentaliste de mon collège les avait recouverts avec du papier opaque, de façon à ce que les garçons osent les emprunter, qu'ils avaient la curiosité déjà de voir ce que j'avais écrit, mais en plus, pour ne pas paraître ridicule auprès de leurs camarades, ils empruntaient le livre, ils ne donnaient que la cote à la documentaliste, ils partaient avec le petit roman d'amour, ils leur apportaient ni vu ni connu, et un jour, il y en a quand même un qui m'a dit « Madame, j'ai lu vos romans d'amour. » Je dis « Oui, alors ?» Il me dit « On apprend des choses. Hein. » Alors j'ai dit « Oui, t'as appris à draguer ?» Il me dit « Presque. Hein. » J'ai dit « Mais maintenant, il va falloir passer à la pratique. » Exactement, il m'a dit. Alors j'ai trouvé ça absolument savoureux. Alors, donc, 1878, un capitaine de 15 ans, Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, celui-là, ça fait partie de ceux que j'aimerais lire aussi, les héroïques aventures d'un jeune marin resté seul maître à bord, aux prises avec les difficultés de la navigation et des trafiquants d'esclaves, parce qu'il y a justement aussi cet aspect de rapport avec l'esclavage qui m'intéresse à lire. Les 500 millions de la Bégome. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est que les 500 millions de la Bégome? Bon, mais 500 millions de la Bégome, c'est assez intéressant, parce que celui-là m'a beaucoup plu, moi, parce que Alors, donc, un Français, M. Sarrazin, hérite de 500 millions de francs, mais il doit partager cette somme avec un Allemand, M. Schulz, qui est l'auteur d'un mémoire intitulé « Pourquoi tous les Français sont-ils atteints à des degrés différents de dégénérescence héréditaire ?» Et ça part mal quand même, hein. Ils sont obligés de partager l'héritage entre les deux. Donc le ton du livre est lancé, chacun des deux héritiers va concevoir et construire une ville idéale en Oregon. Hein. Voilà. C'est plus facile d'expatrier chez les Américains, on met ça chez les voisins, c'est une technique très fréquente en fait. Ça semble, bon, on est moins concerné. Hein. Molière faisait déjà ça, hein. Les fourberies de Scapin, ça se passe en Italie. Hein. On n'avait pas du tout comme ça de problème avec le roi qui aurait pu dire que, mais qu'est-ce que c'était que ce serviteur qui d'un seul coup se mettait à bastonner ses maîtres. Hein. Allez, mais c'est pas chez nous, c'est en Italie. Hein. Bon, alors donc... Et les deux villes vont être très différentes. La ville de Schulz est davantage une vaste usine d'armement qu'une ville, tandis que la ville française est un exemple de développement urbain. Le but de Schulz est bien sûr de détruire la ville rivale conçue par un Français dégénéré. Hein. Et ce roman avait été écrit à l'origine par André Lory, qui est le pseudonyme de Pascal Grousset, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des travaux comme ça de réécriture de Verne sur des manuscrits qui avaient été proposés à Hetzel. Donc c'est le cas, Hetzel avait racheté le manuscrit de Pascal Grousset, écrit sous le pseudonyme d'André Lory, pour le... Alors il a payé Pascal Grousset, en fait, on doit peut-être savoir combien, mais pour le faire réécrire, en fait, pour le confier à Jules Verne. Et Jules Verne l'a repris à sa manière. Il y démontre beaucoup d'hostilité face aux Allemands. Quelques années auparavant, Bismarck avait mené l'Allemagne à la victoire sur la France de Napoléon III lors de la guerre franco-prusse de 70-71. À la suite de cette défaite, c'est là que la France fut amputée donc de l'Alsace et la Lorraine. Et Jules Verne a pris part à cette guerre en tant que garde-côte au Crotoy. Il a eu une implication, en fait, dans la guerre de 70. Et donc le Crotoy, c'était là où il avait son bateau. Enfin bon, il était très féru de mer. Hein. Et la défaite française fut un peu la sienne, et c'est sans doute pourquoi les Allemands n'ont pas du tout le beau rôle dans les 500 millions de la Bégome. Et le personnage de Schulz évoque un peu Hitler. Bien sûr, Jules Verne ne connaissait pas le Führer, puisqu'il n'est devenu célèbre qu'une quinzaine d'années après la mort de Verne, mais les ressemblances sont frappantes quand même. Cette montée possible d'un dictateur qui veut absolument faire des armes susceptibles de détruire la France, enfin, etc. C'est la ville voisine, la ville française, et la ville de Sarrazin, elle a beaucoup d'intérêt puisqu'elle présente une organisation sociale et en particulier un système de santé qui est extrêmement intéressant à lire, pour mettre aussi en perspective par rapport à l'époque de Verne, où on était au balbutiement encore de la médecine pour tous, etc., égalitaire. Et j'ai beaucoup apprécié, moi, les 500 millions de la Bégome. C'est vraiment un livre qui permet aussi énormément de prolongements pédagogiques. Je me rappelle plus exactement quel extrait j'ai mis dans l'anthologie. Comme vous voyez, comme quoi il faut que je relise mes livres de temps en temps. Mais 165, il ne faut pas qu'on dépasse l'heure parce qu'il y a quelqu'un d'autre après. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Je vais vous lire un petit morceau parce qu'il y a tout un programme pour la construction de la ville idéale. Et donc, par exemple, voilà, je lis ça qui est intéressant. Chaque chambre à coucher est distincte du cabinet de toilette. On ne saurait trop recommander de faire de cette pièce où se passe un tiers de la vie la plus vaste, la plus aérée, en même temps la plus simple. Elle ne doit servir qu'au sommeil. Quatre chaises, un lit en fer, muni d'un sommier à jour et d'un matelas de laine fréquemment battu, sont les seuls meubles nécessaires. Les édredons, couvre-pieds piqués et autres alliés puissants de maladies épidémiques en sont naturellement exclus. De bonnes couvertures de laine, légères et chaudes, faciles à blanchir, suffisent amplement à les remplacer. Sans proscrire formellement les rideaux et les draperies, quand même, on laisse une petite touche féminine, hein, bon. On doit conseiller du moins de les choisir parmi les étoffes susceptibles de fréquents lavages. Mesdames, on vous laisse mettre les rideaux, mais enfin, il faudra les laver. Hein. Chaque pièce a sa cheminée chauffée selon les goûts, au feu de bois ou de houille, mais à toute cheminée correspond une bouche d'appel d'air extérieur. Quant à la fumée, au lieu d'être expulsée par les toits, elle s'engage à travers des conduits souterrains qui l'appellent dans des fourneaux spéciaux établis aux frais de la ville, en arrière des maisons, à raison d'un fourneau pour 200 habitants. Là, elle est dépouillée des particules de carbone qu'elle emporte et déchargée à l'état incolore à une hauteur de 35 mètres dans l'atmosphère. Bon, il y a quand même déjà là-dedans une volonté d'écosystème, enfin d'essayer de se pencher sur... on parlait ce matin avec Vincent Calbeau là, de ces magnifiques... Enfin ça, ce sont des zeppelins, ça aurait pu à Verne, hein. Avec les ballons, là, il aurait vu ça. Des fois, j'imagine qu'il est encore là, quelque part, aux Utopiales, à regarder ce qu'on fait. Mais ça, cette affiche, l'aurait enthousiasmé. Et l'exposition en bas des projets architecturaux de Vincent Calbeau, je pense que ça lui aurait énormément plu. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. J'y arriverai pas, hein, j'aurai pas le temps. Il en a écrit trop. Les tribulations d'un Chinois en Chine, la maison à vapeur, la Jangada, le rayon vert... L'école des Robinsons, Kéraban le Têtu, l'archipel en feu, l'étoile du Sud, Mathias Sandorf, Robur le Conquérant, un billet de loterie, le chemin de France, sans dessus dessous. Alors celui-là, j'ai l'intention de le lire, puisqu'ils ont décidé de changer l'axe de la Terre pour faire apparaître des choses qui sont au pôle Nord, et celui-là, je ne l'ai pas lu, mais celui-là, j'ai l'intention de le lire un petit peu. Hein. C'est les mêmes personnages, les artilleurs de la Terre à la Lune et de autour de la Lune qui sont dans sans dessus dessous. Famille sans nom, César Cascabel, Mistress Branican, le château des Carpates, celui-là je l'ai lu et c'est vrai que sur les prémices de la télévision on est en plein dedans là aussi. Claudius Bombarnac, Petit Bonhomme, Mirifiques aventures de Maître Antifère, L'île à Hélice, celui-là je vais le lire aussi, puisque c'est une île artificielle construite pour des milliardaires américains qui dérivent dans l'océan Pacifique. Et le film récent de science-fiction qui s'appelle Elysium montre comment, alors que le reste de la Terre est en train de mourir, sous une pollution épouvantable, hein, tous les riches sont partis dans une station... orbitale qui ressemble à un gigantesque paquebot, justement, et là on est en plein dedans aussi. Face au drapeau, Clovis d'Ardendor, le sphinx des glaces, donc la suite d'Arthur Gordon Pym, le superbe Orénoque, le testament d'un excentrique, Seconde Patrie, le village aérien, les histoires de Jean-Marie Cabidoulin, ça c'est une chasse à la baleine, perturbé par un légendaire serpent de mer, les frères Kip, bourse de voyage, maître du monde, c'est la suite des aventures de Robur le Conquérant, un drame en Livonie et l'invasion de la mer. Voilà, alors donc là, on s'arrête en 1905. Ça, ce sont ceux qui sont paru de son vivant. Et puis après, il y en a d'autres, Le phare du bout du monde, Le volcan d'or, L'agence Thomson et compagnie, La chasse aux météores, Le pilote du Danube, Les naufragés du Jonathan, Le secret de William Storitz et L'étonnante aventure de la mission Barsac et son fils, a mis son nez et ses mains dans l'écriture des derniers romans. Voilà. Et donc, il y avait ce manuscrit de Paris au XXe siècle qui était soi-disant caché dans un vieux poêle à bois, dans un grenier, je ne sais pas où, et qu'il ne souhaitait absolument pas voir publié. Et puis que les éditions Hachette se sont évidemment empressées de publier lorsqu'ils en ont eu la possibilité. Hetzel avait refusé le roman, Jules Verne ne voulait pas qu'il soit publié. Et puis, mais bon, il n'est pas passionnant, mais il y a une ou deux scènes qui sont fascinantes sur sa vision de Paris en 1960, puisque c'est en 1960 que se déroule l'action, où on a vraiment l'impression qu'on est dans le Paris moderne où les Parisiens courent partout, on est complètement dedans. Là. Il est temps que je m'arrête, je présume.
Ce sera 30
oui,
secondes.
Bon, alors je vais vous lire Paris vu par Jules Verne au XXe siècle. La foule encombrait les rues, la nuit commençait à venir, les magasins somptueux projetaient au loin des éclats de lumière électrique. Les candélabres établis par le système Houet, par l'électrisation d'un filet de mercure, rayonnaient avec une incomparable clarté. Fut dit un de nos ancêtres à voir ces boulevards illuminés avec un éclat comparable à celui du soleil, ces 1000 voitures circulant sans bruit sur le sourd bitume des rues, ces magasins riches comme des palais d'où la lumière se répandait en blanches irradiations, ces voies de communication larges comme des places, ces vastes places comme des plaines, ces hôtels immenses dans lesquels se logeaient somptueusement 20 000 voyageurs, ces viaducs si légers, ces longues galeries élégantes, ces ponts lancés d'une rue à l'autre, et enfin ces trains éclatants qui semblaient sillonner les airs avec une fantastique rapidité. L'ancêtre en question, il eût été fort surpris sans doute, mais les hommes de 1960 n'en étaient plus à l'admiration de ces merveilles. Ils en profitaient tranquillement, sans être plus heureux, car à leur allure pressée, à leur démarche hâtive, à leur fougue américaine, on sentait que le démon de la fortune les poussait en avant, sans relâche ni merci. Je souligne la fougue américaine, quand même. Voilà, Paris au XXe siècle, vu par Jules Verne, avec les... Mais quand on voit le métro aérien, quand on voit les RER, quand on voit tout ça, enfin, on se dit que c'était vraiment un siècle avant. Extraordinairement visionnaire. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire des livres de Jules Verne. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous dis, en bonne bourguignonne, j'en ai encore à déguster. Je me les réserve pour ma retraite, un petit peu, par-ci, par-là. Parce que je pense que vraiment, autant j'ai pu dire à un moment donné, il n'écrivait pas de la science-fiction, il écrivait de l'anticipation scientifique, c'est vrai, mais vraiment c'est excellent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et ça peut encore, sans aucun doute, plaire à des jeunes et être étudié en étant guidé. Par contre, il faut que l'adolescent qu'on lance là-dedans, parce celui qui se lance tout seul, c'est parfait. J'ai vu des gamins qui m'ont dit, moi j'ai lu ça, ça et ça, c'est bien, ils y arrivent, ils s'en sortent tout seuls. Ceux qu'on incite à lire, il faut vraiment qu'ils soient encadrés, guidés, et puis, mais il n'y a aucune raison que ça ne leur plaise pas. Voilà. Oh oui,
qu'est-ce que vous conseilleriez pour un jeune de 15 ans? Un garçon de 15 ans, par exemple, pour un premier livre de Jules Verne.
Je pense que le tour du monde en 80 jours, si c'est un jeune qui n'a rien lu encore, le tour du monde en 80 jours, oui, c'est quand même une aventure avec la poursuite policière, avec le fait que Phileas Fogg est accusé de vol, que Fix le poursuit, qu'il y a Passepartout qui est là, le français, face au flegmatique anglais qui est presque une machine lui-même, Phileas Fogg, mais Passepartout, avec toutes ses petites trouvailles, avec son astuce, la belle Madame Aouda, qu'on sauve in extremis aux Indes. Enfin, il y a tous les ingrédients d'un roman qui peut plaire à un jeune de nos jours. La scène où il passe avec le train sur le pont qui s'effondre juste après, là, c'est écrit d'une telle façon qu'on se met sur un film catastrophe de nos jours, dans genre 2012, où les gars foncent avec leur bagnole et que tout s'effondre derrière, on est en plein dedans. Hein, Jules Verne il verrait des films comme ça maintenant, il dirait « Mais je l'ai déjà fait !» Il y avait d'autres questions, non? Mais bon, vous pouvez me trouver jusqu'à dimanche sur le festival, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Et puis, bah merci, c'était très sympa de... On va laisser la place à l'imaginaire américain.